Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à chacun et à chacune. Voilà, vous savez qu'on avait déjà crucifié celui qui a parlé. Et puis, depuis qu'il a parlé, eh bien, on peut faire taire et éliminer sa voix. Alors, c'est le sujet de notre message aujourd'hui. Cette guerre, nous pourrons dire, comme contre la parole de Dieu. Alors, c'est tout à fait d'actualité, ça l'a toujours été. Mais ça l'est encore aujourd'hui, et vous savez que la parole de Dieu, c'est l'autorité supérieure de notre foi, ce qui nous fait vivre. Alors on va lire d'abord un premier texte pour resituer précisément l'importance de cette parole. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, c'est Paul qui s'adresse à ce jeune pasteur, ou en tous les cas, préposé au ministère pastoral, il s'appelle Timothée, et l'apôtre Paul va lui donner quelques conseils, des conseils qui nous vaut aussi pour chacun d'entre nous. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Il dira ceci: « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire l'Écriture sainte, la Bible, le message de l'Évangile, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire à vivre sa foi d'une manière efficiente, pratique, d'une manière évidente. Je vous ai parlé il y a un instant de l'autorité supérieure de notre foi, et notre foi repose sur une personne, Jésus-Christ, et ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire la parole, sa parole, que nous appelons très souvent la parole de Dieu. Vous souviendrez que dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, il y a le récit de la tentation. Et il nous est dit que Jésus, après avoir été baptisé, a été emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Et nous voyons que la guerre commence. Parce que une première tentation sur la souffrance. Une deuxième tentation va arriver ensuite sur la proposition de la gloire, de se glorifier. Et puis une troisième tentation qui sera, elle, spirituelle, c'est-à-dire le défi à Dieu, ou tenter Dieu en quelque sorte. Et vous remarquerez que dans la première, la deuxième et la troisième, Jésus va dire ceci. Il est écrit. Dieu a dit. Dieu a parlé. Il est écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu, en raison de la proposition diabolique, démoniaque qui est faite à Jésus. Et Jésus va pouvoir finalement neutraliser ce flot immonde de mensonges déguisés, perpétrés, adressés par le diable, en répondant par la parole. Il est écrit. Alors, ce que je voudrais dire ce matin, tout de suite et dès l'abord, je voudrais dire que la parole de Dieu, il y a deux façons de la concevoir et de l'interpréter. Il y a une première manière, et vous l'avez souvent entendu dire, dans un esprit légaliste, la loi. Et là, quelque part, nous faisons le bonheur de l'adversaire, parce que qui d'entre nous, à travers tous les siècles et tous les temps, a pu dire « Moi, je n'ai jamais péché contre un commandement de Dieu ». Ça, c'est la manière qui est souvent maintenant reconnue naturellement, et bien à travers tous les temps, chez les hommes qui aiment Dieu, des gens sincères, et qui vont se garantir, qui vont se faire une Jéricho barrée, barricadée, en disant « on ne me touchera pas parce que finalement c'est la loi de Dieu ». Et puis il y a une deuxième conception qui est celle de l'Évangile, que Jésus nous a enseignée. C'est une approche de la parole de Dieu dans l'esprit. C'est plus, en effet, bien là, la loi stricte, mais c'est dans l'esprit de la grâce. C'est-à-dire que comme Jésus a vaincu, moi je me réfugie en Jésus et sa victoire devient la mienne. Et ça, je peux vous dire que ça fait tout à fait la différence, c'est un résultat diamétralement opposé. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons foi en Jésus-Christ. Pas confondre la loi et la foi. Ça ne veut pas dire que la loi est abolie. Ça veut dire qu'il y a une dimension supérieure. Je tenais à le rappeler parce que c'est quand même très important si nous voulons vivre heureux dans le repos de Dieu. Parce que la loi ne nous laisse pas de repos, hein. Alors, il est écrit. Je vous ai signifié il y a un instant que l'Écriture sainte a toujours été attaquée. Parce qu'elle dérange. Parce qu'elle met la conscience de l'homme mal à l'aise. Et nous pouvons parler à ce moment-là de tous les subterfuges ou les ruses du diable et de ses agents. Tout à l'heure, je vous ai lu ce passage où il nous est fait l'apologie de la parole de Dieu dans cette dimension divine. Pour nous, de bienfait, toi demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines, je ne vais pas commenter. Mais au verset 13, le verset précédent, il est dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Et pour nous montrer qu'il y a aussi des agents de l'adversaire, il y a aussi des serviteurs qui sont des serviteurs de l'injustice et qui travaillent sous des apparences de faire l'œuvre de Dieu, qui, derrière une phrasiologie, des mots, des discours qui semblent évangéliques ou bibliques, sont des serviteurs tout simplement de l'ennemi, pour mieux circonvenir les hommes faibles et les amener, tout simplement, eh bien, à être confondus par la parole de Dieu même, par une fausse compréhension. Et il nous est dit que le diable se déguise en ange de lumière, et il a aussi ses serviteurs qui ne sont pas des serviteurs de justice, mais des serviteurs du contraire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de manipuler la parole de Dieu et ainsi, eh bien, de tromper, de séduire, comme le premier péché, comme la première désobéissance dans le jardin d'Éden. On y reviendra. Donc, une stratégie dévoilée. Et en quelque sorte, c'est vouloir faire taire la voix de Dieu à tout prix. Et quelquefois, la religion s'est mise dedans pour faire taire la voix de Dieu. Pour faire taire le message de l'Évangile. Pour faire taire les enseignements de Christ. Parce que c'est une parole inspirée, là, les enseignements de Christ. Parce que c'est quelque chose qui est bien et propre pour l'homme, pour son développement, pour son salut naturellement, faire taire la voix de Dieu. Et nous avons parlé de stratégie. Alors avant d'aller plus loin, c'est toujours une petite introduction que je suis en train de faire. Mais écoutez ce qu'il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 4. Il est dit ceci, je lis tout simplement, « Si notre évangile est encore voilé, parce qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'il soit voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Alors vous savez, nous sommes dans un conflit. Et le conflit, c'est finalement autour de ce que Dieu a accompli, de ce que Dieu a fait, de ce que Jésus est et de ce que Jésus nous enseigne à travers tout simplement sa parole. Elle est importante, la parole de Dieu. C'est certainement la caractéristique du monde protestant. Les protestants sont des gens qui protestent. Ils ne protestent pas contre Dieu, ils protestent contre les erreurs. Les erreurs des hommes, les erreurs de ce monde incrédule, les erreurs de toutes ces philosophies existentialistes et autres. Et ils protestent parce que on a changé et dénaturer ce que Dieu nous a donné à travers le Verbe vivant, c'est-à-dire à travers Jésus, et ce qu'il nous a laissé, alors on a vu que c'est pour que les gens ne voient pas, pour que les gens ne s'aperçoivent pas qu'ils vivent et qu'ils continuent à vivre, certes avec une religion, même avec une religion chrétienne, ça ne le dérange pas, mais vivre toujours dans l'illusion qu'ils sont sauvés, qu'ils iront au ciel, alors que quelque part Dieu n'a pas dit les choses de cette manière. Alors nous allons voir plusieurs angles d'attaque, si vous me permettez, parce que nous allons parler d'une guerre, une guerre contre la vérité. Vous savez, Jésus s'est battu contre ça. Et vous savez ce que ça lui a valu à Jésus ? D'être crucifié. Il a dit la vérité, il a dit « ta parole est la vérité » dans cette prière que l'on appelle la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, « ta parole est la vérité ». Alors c'est une guerre, et nous allons voir ces angles d'attaque différents. Pendant des siècles et des siècles, notre monde, notre civilisation occidentale, en particulier, mais bien d'ailleurs, naturellement, l'opposition a été frontale à travers des violences directes, et l'histoire en garde la mémoire sanglante, par le fait même que ce sont quelquefois des chrétiens de nom qui ont été les instruments de l'adversaire pour combattre d'autres chrétiens. D'autres hommes qui tenaient à mettre en évidence dans leur vie, dans leur cœur, leur espérance dans la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. C'est pourquoi il est dit, mais garde des choses que tu as apprises, parce que tu les as apprises, et ce sont des paroles de salut, ce sont des paroles de vérité, elles sont propres. Finalement, eh bien là, à faire d'un homme chrétien, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et un citoyen des cieux. À travers l'histoire, ce que l'on a appelé les autodafés, les Bibles, que l'on brûlait en public, quand ce n'étaient pas des hommes avec leurs Bibles. À travers les bûchers, à travers le sang qui a coulé, à travers le bannissement, à travers le martyre, à travers tant de souffrances qu'a dû endurer l'Église de Jésus-Christ, et dans notre pays, nous avons eu notre part pendant à peu près 3 siècles, ce qui vaut nouveau aujourd'hui la liberté de pouvoir nous réunir ensemble librement et exercer tout simplement notre foi en conscience, ça a été un prix qui a été très très cher, payé par tous les détenteurs et les propagandistes, eh bien, de la parole de Dieu. Et nous sommes aussi, à notre tour, des gens qui voulons faire connaître la parole de Dieu. Mais bénissons le Seigneur parce que nous avons la liberté. On a appelé ça les guerres de religion. Les guerres de religion, qui étaient une forme avant le temps et avant qu'on ait donné le nom à cet épouvantable massacre, un génocide. Voilà, c'est un mot moderne. Hein. C'est après la guerre, après les camps de concentration, qu'on a appelé ça génocide, destruction d'un peuple. Alors, c'était naturellement perpétré à l'encontre de quiconque prenait la liberté de posséder une Bible et de lire la Bible. Ça, c'était la règle, c'était comme ça. Et ça a été, il faut le dire, non pas par des gens qui ne croyaient pas en Dieu, mais par des gens qui croyaient en Dieu. Les éminences de la religion officielle. C'est terrible de penser ça. Alors la parole de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure dans Timothée, est une source de salut, de vérité et de lumière. Et nous voyons que tout cela a été occulté durant des siècles, et cette mise à l'écart s'appelait l'index. Je dis un petit peu les choses pour eux. Maintenu dans une langue morte, le latin. Voilà. Pour comprendre les écritures, à l'époque, il fallait connaître le latin. Donc ce n'était que pour une catégorie de gens. Parce que il fallait que ça soit interprété par des gens habilités. Non pas par Dieu, mais officiellement par les instances de la religion, afin de mieux soustraire cette parole de Dieu à la connaissance des peuples. Voilà. Ou encore, on l'a décrétée religieuse comme livre du diable, et très souvent comme livre des protestants en dehors du magistère de l'Église officielle. Ça ne passait que par une voie. Interprétation obligatoire. Sinon, eh bien, c'était l'excommunication. Aujourd'hui, en dépit des apparences, si les formes ont changé, et c'est vrai que dans un certain sens c'est pas mal, Plus que jamais, le diable et ses serviteurs entendent bien faire taire la voix de la vérité de la parole de Dieu. À travers notre modernisme depuis 2 ou 3 siècles, ce qu'on a appelé les nouvelles théologies, c'est-à-dire de mettre en doute systématiquement toutes les paroles de l'Écriture, même l'existence de Jésus, les miracles, tout ce qui est simple. Alors comment? D'une manière insidieuse, j'ai commencé par la violence, le choc, la guerre frontale, qui existe encore aujourd'hui dans certains pays. Je peux vous dire qu'être chrétien dans certains pays, il faut en vouloir. Mais bon, on en veut parce que il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui nous donne la force, comme ça a été dit, certainement l'exemple de nos pères en la foi. Alors je mettrai quelques exemples devant vous. Cette guerre a commencé dès les premiers jours, en mettant en doute, puis contester ce que Dieu a dit, à travers cette image emblématique du serpent dans le jardin d'Éden. Dieu aurait-il réellement dit? La parole venait juste d'arriver, elle avait été donnée à l'homme, et tout de suite, aussitôt après, mais est-ce que Dieu aurait réellement dit? Introduction, où le diable va instiller dans l'esprit, la conscience, la pensée de l'homme, et bien que Dieu est un menteur. Pas plus, et ni moins. Entamer la conscience, troubler l'homme. Ça, c'est le premier pas. Cette guerre a continué contre la parole de Dieu en la déformant, soit en y ajoutant des choses, ou soit en retranchant des choses. Vous savez ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, hein? Celui qui ajoutera et celui qui retranchera sera tranché du livre de la vie, naturellement. Alors, cette déformation par la critique rationnelle, à travers des accusations de fiabilité, est-ce que la parole de Dieu est fiable? Ou autrement, par suspicion d'inspiration. Mais c'est pas Dieu qui a inspiré sa parole. Or, nous l'avons lu tout à l'heure, nous l'avons lu, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Restons sur ces choses, mes frères et sœurs. C'est important. Cette guerre continue, cette attaque, tous ces subterfuges, en la taxant de littérature légendaire. La Bible est bon, tout simplement, un petit livre, tout simplement, pour endormir le soir avec de belles histoires nos enfants. Comprenez, l'arche de Noé, à travers les Hébreux qui marchent sur la mer Rouge, etc., etc. Dans l'épître de Pierre, il nous est dit ceci, « Ce n'est pas suivant des fables ou des contes ou des histoires habilement conçues que nous avons fait connaître le mystère de Jésus-Christ. » C'est Pierre qui le dit. La parole de Dieu n'est pas une légende. Et vous savez que dans la théologie moderne, on a essayé de mettre tout ça par terre. Particulièrement au XIXe siècle, où des théologiens sont arrivés, et beaucoup pensent, même dans le monde protestant aujourd'hui, que tout ça, ce sont des histoires. Ce ne sont que des histoires. Ou alors, continuons ces angles d'attaque, en la vidant de son aspect expérimental et pratique. La parole de Dieu, pour certains, serait une lettre morte, une vieille histoire d'antiquité, un livre poussiéreux qui ne peut que peut-être nous réconforter, à la limite nous donner une sorte de moralité, mais pas plus, rien de plus. Cette lettre est morte. Et pourtant, il nous est dit quand même que l'évangile est une puissance de salut, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est Jésus qui dira à 2 sœurs éprouvées par la mort de leur frère, Marthe et Marie, « Si tu crois, tu verras la parole de Dieu. » Eh bien, vous savez, c'est fondamental et c'est essentiel. Quand nous prêchons l'évangile, nous ne faisons pas que dire un discours, faire un sermon, mais nous ajoutons « Si tu crois, eh bien, tu vas le voir, parce que c'est une parole réelle et vivante et puissante. » C'est ça ce que nous avons besoin. Et il faut se rafraîchir un petit peu là en ce moment, dans ce contexte dans lequel on est enveloppé religieusement, théologiquement. Il faut réagir, mes frères et sœurs, parce qu'attention, hein, ça a commencé, ça se poursuit, mais dans quel état sera l'Église, celle de l'Apocalypse, celle des derniers jours? Qu'est-ce qu'il restera? Jésus le souligne. Il dit, mais lorsque je reviendrai, trouvai-je encore la foi sur la terre? Oui, une foi religieuse, des croyances, d'accord, il y en aura, mais il y en aura plus qu'il n'y en a jamais eu. Vous savez que notre monde va virer vers la croyance en ce moment, hein? Mais quelle croyance? On ne parle pas de croyance. Chrétienne, bouddhiste et tout ce que vous voudrez. On parle de foi réelle, expérimentale, et pratique. Encore un autre angle de tir. En la démystifiant de son côté surnaturel, miraculeux et éternel. C'est ce qui fait finalement, eh bien, nous pourrions dire, un principe vivant de la foi du monde évangélique. Nous prêchons la guérison divine. Nous prêchons encore l'intervention de Dieu dans les vies, et fort heureusement pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour apporter, eh bien là, de faire des hommes perdus, des hommes sauvés, de faire des hommes qui sont aux prises avec leurs péchés, leurs misères, d'en faire des hommes vivants, nés de nouveau. C'est autre chose. Donc, démystifier la parole de Dieu en lui faisant perdre son pouvoir créateur de foi. La parole est annoncée, elle suscite la foi dans les cœurs. De lui faire perdre son espérance. Quand nous lisons les psaumes, c'est quelque chose de merveilleux, les psaumes. Hein? Extraordinaire. Hein? Parce que là, c'est être rempli d'espérance. Donc, s'il n'y a plus de foi, s'il n'y a plus d'espérance, logiquement, il n'y a plus de résurrection. Il n'y a plus de vie nouvelle, plus de résurrection. Il n'y a plus de sauveur. Il n'y a plus rien d'autre de ce que la Bible nous donne pour que nous puissions véritablement nous épanouir et être ce que nous sommes, ce que nous devons être. Nous sommes dans un existentialisme déprimant, vous comprenez ? L'aboutissement, c'est la mort et il n'y a plus rien. C'est d'une tristesse sans nom. L'existentialisme qui a fait quand même, finalement, qui a eu ses beaux jours au XXe siècle, hein, avec toutes ces philosophies, toutes ces idéologies athéistes. Plus de ciel, plus de sauveur, plus de résurrection. Et pourtant, nous lisons sous la plume de l'apôtre Jean ces paroles. Voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Écoutez, on a quand même la réponse à tout, hein? La Bible a la réponse à tout. Vie, puissance, guérison, pardon, ça s'appelle l'Évangile. Et l'Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Nous avons besoin de tenir les cordes, mes frères et sœurs, et savoir où est la nature de notre foi, savoir où se trouve notre foi pour tenir devant les marées, les tsunamis qui viennent sur notre monde. Rappelons-le. Combien l'on s'aperçoit que le diable a la volonté de renverser l'autorité de la Bible. Et c'est ce qu'il a fait depuis toujours. Il travaille à la pervertir. Il travaille à interdire la progression de cette connaissance. Parce que quand les gens ont la connaissance, eh bien, ils croient, et parce qu'ils croient, ils sont sauvés. Parce que la Bible, c'est quand même la source unique de foi éclairée et qui nous permet de rentrer en communion avec notre Dieu. Il a parlé, il parle encore. Dans la prière, je l'interroge, je lui parle et il me répond. Et ce qu'il me dit nourrit chaque jour, eh bien, mon cœur, ma conscience et mon âme. Et c'est ce qui fait cette communion, cette relation. Jésus nous prévient du danger quand il nous dit ceci d'une manière sibylline, mais ça passe quand même. Et nous n'avons pas besoin faut pas l'oublier. Il nous dira les oiseaux du ciel, Ils viennent lorsque le semeur est passé dans son champ, qu'il a répandu sur la terre, imaginez-vous le monde, la parole de Dieu, la semence vivante. Alors les oiseaux du ciel viennent et enlèvent la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ces oiseaux du ciel, vous savez, ils font partie d'un autre monde, hein, ténébreux, méchant, diabolique, de perdition, de mort. Et c'est le long du chemin. C'est dit comme ça, d'une manière tout à fait anodine, mais attendez, hein, ce que Jésus nous dit, c'est quand même la vérité, parce que c'est ce que nous constatons, hein, dans le monde, et quelquefois, eh bien, l'ensemencement se fait même parfois dans le cœur des chrétiens qui ont besoin de se poser la question pour savoir dans quel terrain cette parole a été reçue. Si c'est dans les chemins, si c'est dans les rocailles, les épines, voilà, il faut savoir. Alors, on va voir un petit peu cette destruction sur la parole de Dieu, cet anéantissement de la parole de Dieu qui gêne tant, qui gêne l'adversaire, qui gêne le monde des ténèbres et qui gêne les hommes aussi. Parce que c'est pas que les gens ne veulent pas croire en Dieu, mais c'est qu'ils ne veulent pas changer de vie. C'est la question. Alors, quand il peut détruire, discréditer, obscurcir la compréhension de la parole de Dieu, il ne s'en gêne pas. Et je dirais, si vous me permettez l'expression, son cheval de bataille, c'est arriver à décourager le lecteur ou l'auditeur, lecteur lorsque nous avons une Bible devant les yeux, auditeur ce que nous sommes actuellement, c'est de l'amener à se démoraliser en disant « je comprends pas, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile ». Si vous permettez un petit conseil, ça arrive même à des pasteurs de ne pas avoir envie de lire la Bible. Vous me ferez pas de mal, hein, j'espère. Non. Ben vous savez, il y a une chose qu'on demande au Seigneur. Ça arrive même aux meilleurs des chrétiens de ne pas avoir envie de prier. Si j'écoute la voix de l'ennemi qui me dit « Regarde, ça sert à rien ton histoire là. Tu le fais parce qu'il faut le faire, parce qu'on t'a dit de le faire, parce que le pasteur te dit de le faire. » Alors à ce moment-là, je me précipite vers le Seigneur en disant « Seigneur, j'ai pas envie de prier aujourd'hui. Seigneur, j'ai pas envie de lire la Bible. Mais Seigneur, je te demande de me donner envie de lire la Bible et envie de te prier. » Et je peux vous dire que là, à ce moment-là, ça décolle. Parce que j'ai dénoncé derrière ce qu'il y avait. Au lieu de m'épuiser, au lieu de forcer, au lieu d'essayer d'enfoncer des portes qui sont fermées, je m'adresse parce que ma force, elle n'est rien à côté des suggestions de l'adversaire. Mais par contre, ma force, elle repose en Dieu, c'est quand je lui demande son secours pour tout ça. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Alors ne vous culpabilisez pas. Vous venez devant le Seigneur et vous dites « Seigneur, j'ai pas envie, mais c'est toi qui vas me donner l'envie. Tu vas me donner faim et soif de ta parole et vous allez voir que votre environnement intérieur, moral et spirituel va s'illuminer du soleil qui vient d'en haut. » J'ai quelquefois rencontré des chrétiens qui venaient, qui étaient complètement à plat, en disant « Mais je ne peux plus aller plus loin, ça ne dit plus rien. » Mais il y en a un qui va vous empêcher que ça ne marche plus. Mais si vous le voyez, vous le dénoncez, alors à ce moment-là, vous criez à Dieu pour qu'il vous donne le secours, d'avoir de l'appétit, vous comprenez, quelquefois on passe par des moments d'anémie, on passe par des moments où on n'a pas faim. Eh bien, quand on demande à Dieu « donne-moi faim et donne-moi ça », vous savez que, vous allez voir, hein, ça va? Oui? C'est pour vous encourager. Hein. Alors la brèche, quand il veut nous décourager l'ennemi de lire, ou d'entendre, ce sont souvent nos insuffisances et nos manques d'intérêt. Et le diable sait ça, nos faiblesses. Le diable sait trop bien que la lecture de la parole de Dieu, régulière et réfléchie, ou nous attacher à venir dans les réunions, eh bien, quelquefois, est laissé en jachère, vous savez. Seigneur, je pense à toi, mais quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps. Mais vous savez que le diable va nous donner tout notre temps, hein. Et il va s'évertuer à nous donner tout notre temps pour que nous n'ayons pas le temps pour l'essentiel et le principal. Et cela en résulte quelques points que j'aimerais voir devant vous, qui nous amènent quelquefois à une confusion, ce que j'appellerais un obscurantisme spirituel ou de l'illettrisme spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire l'illettrisme? Un illettré, c'est quelqu'un qui est sans connaissance littéraire. Or, nous avons quand même un livre. Dieu aurait pu nous parler avec des CD, avec des vidéos et des choses comme ça. Hein. Mais c'est un livre. On va en parler du livre. Un livre que je peux lire, un livre que je peux écouter aussi, parce que quand il est parlé, et il parle ce livre. C'est ça un illettré. Vous savez que dans le prophète Ésaïe, il y a cette parole, au chapitre 29, et je lis le verset 11 et 12 pour ceux qui, quelque part, ont laissé des brèches et qui n'ont pas le temps, ou qui ne prennent pas le temps, ou qui n'ont plus la volonté du temps à donner à Dieu. Il est dit ceci, « Toute la révélation, donc le livre, est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, « Lis donc ceci », et qui répond, « Je ne le puis, car il est cacheté. » Ben pour nous, les chrétiens, le livre a été ouvert. Il n'est pas fermé, c'est pas fermé. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, c'est autre chose, en disant, « Lis donc cela », et qui répond, « Je ne sais pas lire. » Tout ça, c'est quand même assez curieux, vous comprenez? Ça avait été déjà prévu dans l'Écriture pour ceux qui pourraient avoir des arguments pour dire « Mais Seigneur, je ne peux pas ou je ne veux pas !» Ou je trouverai des excuses, ou je vais trouver des prétextes. Voilà. Mais Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Seigneur, tu m'en as pas donné assez. Vous savez, quand on est en face de cet océan que constitue la parole de Dieu, on est comme un homme qui se trouve sur la grève, sur une plage, sur un rivage, et que nous avons l'océan infini devant nous, en disant, mais qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'une petite poussière. Qu'est-ce que nous comprenons? Mais c'est pourtant, ça nous a été donné. Hein, nous sommes sur le rivage. Alors la question est donc, la Bible est-elle scellée? Ou est-ce que plutôt l'intelligence du lecteur ou de l'auditeur n'y trouve aucun goût? C'est ce que je disais tout à l'heure, donne-moi du goût. Je n'en ai plus, j'en ai pas, on peut avoir un manque de goût. Moi, souvent, il y a des chrétiens qui viennent me voir en disant, tu sais, Alain, il y a un problème parce que je viens de faire une maladie. Je suis à l'hôpital, mais en ce moment, j'ai pas envie de prier. Vous savez ce que je leur réponds? Je leur dis, c'est normal. Dieu nous a pas demandé d'être des surhommes, mais de nous tourner vers celui qui peut nous donner la force que nous n'avons plus ou que nous n'avons pas. On a fait beaucoup de mal. Et on s'est dit beaucoup de mal en donnant des recettes qui n'étaient pas les justes recettes. Et on a culpabilisé les gens. Moi, c'est pas mon type et c'est pas mon genre. Le Seigneur m'a demandé d'être un petit peu comme Barnabas, un fils d'exhortation, d'encouragement et de consolation. Et je veux que vous puissiez recevoir cette consolation de Dieu et ne pas vous décourager. À courir alors que vous n'en pouvez plus. Vous êtes essoufflé, vous n'en pouvez plus, vous êtes sur le bord du chemin, et en disant, mais si je continue plus à courir, le Seigneur va me punir. Mais écoutez, Dieu s'est fait homme, il est venu, il a su ce que c'était que la faim, il a su ce que c'était que la soif, il a su ce que c'était que toutes les vicissitudes de l'existence, et c'est bien pour ça qu'il a été humanisé, qu'il est descendu dans un corps d'homme pour nous comprendre. Il y a une double réponse à ce que nous avons lu dans Ésaïe. Et au verset 10, il est dit ceci, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. » Faisons attention, quelquefois on peut tomber dans un assoupissement parce qu'on manque de goût, on manque d'appétence. « Et il a fermé vos yeux et voilé vos têtes. » Je voudrais quand même replacer les choses dans le contexte, c'était pour le peuple d'Israël qui avait, excusez-moi, belle lurette, qu'ils avaient abandonné la loi de Dieu, ce qui n'est pas notre cas. En tous les cas, s'il y avait quelques tentations de l'abandonner, vous avez au moins le résultat des courses, le résultat et la finalité de ce qui, quelque part, lorsque nous ne donnons pas la priorité à Dieu, eh bien, peut devenir finalement un état qui va nous emporter. Et c'est pour ça, il a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Et c'est terrible. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Seigneur, donne-moi de te donner la priorité, la prééminence dans ma vie. Mais le Seigneur va le faire. Un esprit d'assoupissement que le diable transforme en esprit de torpeur et en esprit de cécité. Je ne vois plus rien, je comprends plus rien. Je ne comprends plus rien à rien la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas Dieu. C'est le diable qui s'en sert pour éteindre la flamme, enlever le feu du premier amour. Alors, pourquoi Dieu le permet-il? Eh bien, la réponse, elle est dans Romains, chapitre 1, verset 28. Mais pour ceux qui sont vraiment engagés, hein, je dirais même c'est pour les gens qui sont en dehors même de la foi chrétienne, il est dit ceci, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés. » C'est pas pour les chrétiens. Mais c'est quand même pour les hommes dans le monde entier, pour vous montrer l'influence et la manière dont le diable s'y prend pour conduire le monde. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ben, et voilà le résultat. Comme Pharaon ne s'est pas soucié d'écouter la voix de Moïse, alors à ce moment-là, il nous est dit que, après s'être endurci, c'est Dieu qui l'a endurci. Et vous connaissez la finale. Pas soucié de connaître. Pas soucié de lire, même en demandant l'aide de Dieu pour lire. Ou de méditer la parole de Dieu. Ou de venir même dans les réunions. Moi, je veux pas faire de vous des coupables, hein. Pas du tout. Je veux faire des gens qui soient encouragés. Et qui disent maintenant, ben, la parole de Dieu, comme au premier jour quand je me suis converti, elle était tout pour moi, la parole de Dieu. Un délice formidable, extraordinaire. Peut-être avons-nous besoin de retrouver cet appétit. D'où notre prière journalière, pour susciter la faim et la soif de cette parole. Je vous ai parlé de l'illettrisme spirituel. Après 21 siècles, enfin pour dire 20 siècles, de propagation du christianisme, on peut s'interroger sur le sens des mots suivants, constatés par les psychologues de ce monde, hein, en matière religieuse. C'est l'ignorance biblique. L'ignorance biblique. Quand vous parlez avec les gens de l'extérieur, mis à part ce qui est marqué sur la couverture de la Bible, ils ne connaissent pas le sens à l'intérieur. On le constate, hein. J'ouvre une parenthèse. Nous nous apercevons que nos enfants à l'école du dimanche savent de moins en moins l'essentiel de la parole de Dieu. Quelle génération va en faire? Ouais. Alors il y avait des vieilles méthodes dans le temps, hein, faire réciter, faire apprendre les versets bibliques. Ben, quelque part, ça leur restait quand même. Hein. C'est préoccupant. L'ignorance biblique. La fragilité des connaissances scripturaires, c'est-à-dire scripturaires, c'est l'écriture, hein, naturellement. On s'aperçoit que, quelque part, même les enfants de Dieu, quelquefois, sont confrontés avec des choses très simples de compréhension de la parole de Dieu et ils se disent « mais je comprends pas ». Mais là aussi, c'est pas une compréhension sèche, vous comprenez, abrupte, d'une compréhension légaliste. C'est l'esprit, la lettre tue, l'esprit vivifie. Et si c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne, puisque c'est l'esprit de vérité, et qu'il nous enseigne toutes choses, eh bien nous devons être presque des pasteurs et des docteurs dans la connaissance. Et on s'aperçoit que quelque part, on est encore des petits-enfants à la maternelle. Vous savez, moi je suis confronté tous les ans à des corrections pour les futurs pasteurs. Dans l'ensemble, ils se débrouillent bien. Mais quelquefois, on a des réponses, on a des thèses. Ouah. On se dit, dis donc, hein, s'il prêche ça plus tard, il va pas y avoir grand-chose à raconter. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Hein. Et même quelquefois, c'est très bien. Mais on s'aperçoit qu'il y a une déperdition de la connaissance de la parole de Dieu, de l'argumentation spirituelle de la parole de Dieu. Alors, on se pose vraiment la question de l'illettrisme dans notre monde. Absence d'enseignement évangélique. Alors on nourrit maintenant l'Église avec toutes sortes de choses, avec des témoignages, même des témoignages en veux-tu, en voilà, même des témoignages extraordinaires, formidables, etc. Mais on se nourrit pas que de ça. Il faut enseigner la parole, il faut l'apprendre, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. Mais dans la simplicité, c'est pas la peine de faire de la haute théologie. Et expliquer les textes, le contexte. Et puis, à la limite, expliquer les prétextes pourquoi on ne le croit pas. C'est comme ça que l'Église va grandir. Vous savez, quand on est venu ici à Saint-Nazaire, ça faisait 5 ans qu'on priait. Pas pour Saint-Nazaire, parce qu'on ne savait pas. Mais il y a une chose que nous avions à cœur avec Myriam. On disait, Seigneur, on savait qu'on allait partir. Hein. Et on disait, Seigneur, envoie-nous dans une Église où ils ont faim et soif, où les enfants de Dieu ont faim et soif de la parole. Moi, je suis heureux d'être au milieu de vous. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas pour vous passer. Parce que j'ai reconnu que dans cette Église, il y a une appétence pour la parole de Dieu. Et je crois que, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai. Un besoin d'entendre la parole de Dieu. Déjà, vous me supportez quand je pêche longtemps. C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, ce qui marque que vous avez faim. Hein. Vous savez, en France, on a l'habitude de faire des repas, et des longs repas. Quelquefois, ça prend 3-4 heures. Hein. On ressort, on est... Alors, j'espère que quand vous ressortez des réunions, vous êtes comme ça aussi. Spirituellement. Hein. Au contraire, en pleine forme. Mais ça, c'est formidable. Mais aujourd'hui, vous savez, on entend des... Enfin, quelquefois, il y a des gens qui nous disent... Moi, je suis allé dans l'église, la parole de Dieu, ben, il y avait toutes sortes de choses, mais la parole de Dieu était absente. 10 minutes de parole, quelques versets comme ça qui sont lus, et puis c'est tout. C'est pas comme ça. Hein. Parce que lire des versets, vous le faites chez vous. Mais vous attendez à ce que le ministère puisse vous apporter une nourriture substantielle. Et une nourriture non seulement substantielle, mais une nourriture surnaturelle. Où vous avez des réponses à vos questions, à vos prières, etc., etc. Mais moi, je dis, c'est formidable. Restons charismatiques, hein. Que de bourdes monumentales commises à la face du monde par des chrétiens, où nous avons raconté des choses qui n'étaient même plus bibliques, lesquelles se sont emparées pour discréditer la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Regardez le monde, quand il interprète le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, parce que heureux les idiots, si vous voulez, par là. Excusez-moi le mot, hein. Mais c'est comme ça que le monde a interprété les choses. Et quelquefois, nous avons été au-devant pour leur montrer que, ben, on était un petit peu, vous savez, hein, on était sur la terre, mais on était déjà comme des anges dans le ciel. Non. On est des hommes qui sont sur la terre et on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on croit. Et on connaît la parole de Dieu. C'est pas de la naïveté, hein. Il faut pas être candide. Un chrétien, c'est un homme mûr. Un homme qui sait discerner le bien et le mal. Et qui s'appuie sur la parole de Dieu. Faut la connaître pour ça. Alors, d'où viennent les fausses doctrines? On en parle. Les hérésies, les disputes de mots dont Paul parle. Les sectes. Voilà. Et sinon, un abandon de la parole de Dieu. Une secte, elle vient toujours dans une communauté où elle devient secte parce qu'on a abandonné les fondements, les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et on a mis un gourou à la place de Jésus-Christ. Alors, il ne faut pas en arriver là. Et Pierre nous dit, en parlant de Paul, il dira, Paul parle de choses dans toutes ses lettres, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, c'est vrai. Lisez Éphésiens, par exemple, ou d'autres, ou Colossiens. Difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies, vous savez ce qu'elles font? Elles tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Ça, c'est la première conséquence de l'illettrisme. On ne connaît pas assez la parole de Dieu. Deuxième conséquence, ce sont les divisions et les querelles des églises entre elles. Non seulement en elles, mais quelquefois entre elles engendrées par tel ou tel aspect de la Bible, où là, nous nous battons, nous nous chamaillons avec la Bible en main pour taper sur la tête de l'autre. J'ai raison et tu as tort. Parce que l'on privilégie ces choses que nous croyons ou nous être dans la vérité au détriment des autres qui le négligent. Vérité isolée. Poussées à l'excès, vérités qui sont poussées à l'excès ou à l'extrême, deviennent des excentricités, c'est logique. Hein. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de ceci, moi, je suis de là. Et on finira par dire que c'est ma vérité. Et avec un petit peu de crédit personnel, eh bien, on dira, mais c'est ma vérité, alors je te l'impose. C'est pas ma vérité. C'est pas la vérité du centre évangélique. C'est la vérité de Jésus-Christ. Point final. Et on va finir aussi par mépriser ceux qui pensent différemment. Alors, quand Jésus nous a dit pour son Église, « Moi et le Père, nous sommes un », je vous demande d'être un. Alors, on en est loin. Que de contestations doctrinales qui ont fait un monde terrible, un mal terrible à l'Église. Et quand le monde nous voit faire des choses pareilles, ils se disent « Ils sont pas mal, hein ? Ah, franchement, ils sont bien. Aimez-vous les uns les autres ?» On en a véritablement, eh bien, un aspect. Autre fruit mauvais engendré par la méconnaissance de l'Écriture, c'est la recherche d'expériences spirituelles hors contexte biblique par une imitation psychique. Le miracle, oui. Le miracle qui vient du Saint-Esprit, le miracle qui est cadré dans la parole de Dieu. Mais pas le miracle occulte ou humaniste, qui est psychique mais qui n'est pas spirituel. Il est émotionnel, il est sentimental. Et ce sont des contrefaçons. Et quand on regarde l'envers du décor, on s'aperçoit que ça n'a plus rien à voir avec la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. C'est dommage, hein? La parole est un guide. Oui. Et Satan se déguise en ange de lumière pour la dénaturer, pour la déformer. Pour revenir à notre méconnaissance ou à notre illettrisme spirituel, eh bien, il conduit tout droit au doute et à l'incrédulité. On finit par plus croire en rien du tout à un moment donné. C'est logique. Sans connaissance réelle de la parole de Dieu, le doute s'installe avec son cortège de questions sur Dieu, son amour, ceci, cela, etc. Et on remet tout en cause. Et beaucoup se détournent ainsi de la seule vérité cette fois, sans se poser de questions quand ils se détournent. Ils s'en posaient avant de se détourner, mais maintenant ils s'en posent plus pour savoir où ils en sont rendus, pour savoir qu'ils sont perdus, qu'ils sont complètement égarés. Ils ne se posent plus de questions et ils finissent par prendre les mensonges et les illusions pour la vérité. Quel retournement, quelle subtilité, quel tour de main que le diable a réussi à faire. Et l'erreur à ce moment-là n'est jamais suspectée, et c'est ça le comble. On doute de la vérité, mais on ne doute pas du mensonge. Et puis, un dernier méfait de la méconnaissance de la Bible, c'est cette substitution à la parole de Dieu d'une certaine littérature qui est dans le vent. Moi, je suis pour, parce que je le fais moi-même, j'aime bien lire, en dehors de la Bible, des bons commentaires bibliques, mais des bons, pas des trucs à l'autrose, pas des choses qui vous font gamberger dans toutes sortes de choses. Vous savez, les petites histoires, moi je suis monté au ciel, j'ai vu le ciel, j'ai vu comment ça se passe, alors je viens vous l'annoncer, je suis presque un prophète, vous comprenez, il y en a eu des trucs. On décrit le ciel, on décrit l'enfer, on décrit ceci et cela, etc. Excusez-moi, le mot est peut-être un peu violent, mais je dis que ce sont des trucs et des machins qui n'ont plus rien avec la parole de Dieu. Et moi, j'étais quand même étonné. Bon, le vent est passé, mais il y a une vingtaine d'années, je peux vous dire, mais il y avait un affolement, il y avait un engouement, tout le monde courait après ces bouquins. Et il y en a encore qui courent, mais bon, je les laisse courir, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, mais c'est terrible. Ah oui, ah, j'avais pas compris ça. Depuis que j'ai lu ce livre, je comprends mieux l'écriture. Non, mais attendez. Oh, hé, hey, où on va là? Ça s'est acheté comme des petits pains, vous savez, à un moment donné. Les gens ne voulaient plus écouter. Ah, ils se donneront une foule de docteurs. Et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y a une chose qui est agréable, c'est ce que nous dit la Bible. Bien, bien comprise et enseigné par le Saint-Esprit qui est en nous, attention, hein, il est en nous le Saint-Esprit. Alors, on a donné des livres de recettes, des livres d'expériences, des choses spectaculaires, pour apprendre à prier, pour apprendre à témoigner, pour apprendre à servir, pour apprendre à réussir. Moi, quand je vois actuellement ce qui se passe, c'est une confidence, vous le répéterez à personne, hein, c'est pour, voilà. Mais quand je vois qu'il n'y a maintenant plus que des spécialistes, moi, je suis peut-être un pasteur généraliste de l'ancien temps, mais c'est pas grave. Moi, je m'en moque. Mais chacun a ses spécialités. Les uns pour la louange, les autres pour l'adoration, les autres pour ceci. C'est du coaching. Comprenez? Coach. Voilà. Je m'appelle plus pasteur, je m'appelle coach. Monsieur coach. Bon. Enfin, tout ce qui nous évite l'étude appliquée du livre des livres, cette littérature pseudo-biblique ou évangélique, est une nourriture, ah, j'allais pas dire le nom, mais parce que je veux citer des marques, artificielle et industrielle, vous voyez ce que je veux dire? Vous le voyez, mais vous l'entendez pas, parce que je vous le dirai pas. Nourriture artificielle, vous savez qui fait grossir? Qui fait des obèses et toutes sortes de choses, c'est du marketing commercial, c'est du marketing finalement évangélique, qui repose souvent sur des énormités que l'on a arrachées à des fragments de vérité biblique, et c'est tellement extraordinaire que l'on finit par trouver la Bible fade, toute simple, sans intérêt, à vous en faire perdre le goût. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à prendre ce livre et à le fermer, le mettre dans les rayons de notre bibliothèque en attendant que la poussière tombe dessus. Jusqu'au jour, si réveil il y a, eh bien nous le reprendrons, mais là nous serons réveillés et nous serons convertis. Perdre le goût de lire et d'entendre la parole de Dieu. C'était la désolation du prophète Osée qui disait « Mais mon peuple a détruit. Mon peuple est détruit par manque, il a rejeté la connaissance. » Par manque de connaissance, il a rejeté la connaissance. Alors je finis. Peuple de la Bible que nous sommes, peuple de l'Évangile que nous sommes, attention, que notre culte au Dieu de la révélation ne finisse pas au niveau d'une simple culture dite biblique ou dite chrétienne, mais dépouillée de l'essentiel. Alors, qu'est-ce que Paul dit ? Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as reconnues comme certaines. Tu connais les saintes lettres. Tu connais la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qui peut te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. C'est le message de ce matin pour chacun d'entre nous, y compris moi-même. Et alors, avec Jérémie, au chapitre 15 et au verset 16, Jérémie dira, « Seigneur, j'ai recueilli tes paroles. » Et je les ai dévorés. Vous connaissez le texte? J'ai reconnu tes paroles et je les ai dévorés. Mais quelle faim! Quelle avidité pour manger! Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. La parole de Dieu n'a pas de prix, sinon pour celui de la vérité et du salut. C'est ça le grand prix. Oui, j'ai dévoré tes paroles et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Et puis une dernière chose dans le monde dans lequel nous vivons. Église de Philadelphie, Apocalypse, il est dit, puisque c'est Jésus qui parle, l'Esprit de Christ, puisque Église, puisque tu as gardé ma parole. Et un peu plus loin, une première fois, deuxième fois, puisque tu as gardé la parole de la persévérance. En mon nom, je te garderai de la grande tribulation qui vient sur les habitants du monde. Et cette grande tribulation, c'est aussi la séduction, découragement et démoralisation des chrétiens pour les amener à oublier ce que Dieu a dit. Que Dieu nous bénisse. On prie maintenant, si vous voulez bien, que Dieu nous donne sa grâce. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que, je veux dire comme Jérémie, c'est la dernière chose, en effet, Seigneur, que je retiens. Seigneur, tu m'as donné tes paroles, je les ai écoutées, je les ai prises, et je les ai dévorées. Je les ai mangées, parce que j'avais faim. J'ai faim de toi, Seigneur. J'ai faim de ta vérité, j'ai faim de ta parole. J'ai faim de ce message merveilleux de l'Évangile. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Qu'il en soit ainsi pour mes frères et mes sœurs, les uns et les autres. Oui, Seigneur, la joie et l'allégresse, c'est ce que je trouve dans cette parole. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.